Radio Kapi.
Comme nouvelle à la une pour cette édition de ce soir sur Radio Okapi, c'est cette assurance du docteur Dieudonné Mwamba, directeur général à la direction de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. C'est en rapport avec la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. Pour lui, tout est fait pour venir à bout de cette maladie en demandant par ailleurs l'implication de tous. Nous vous parlons aussi de ces milliers de déplacés qui se retrouvent présentement à Bolobo dans la province du Maïdombé. C'est après avoir fui les affrontements entre les communautés Teke et Yaka. L'administrateur du territoire plaide pour une assistance à ces victimes de l'intolérance ethnique. Claude Nyamugabo, ancien gouverneur du Sud Kivu et député national actuellement, intervient en fin de cette édition comme invité. Il parle de la situation sécuritaire, sociale et politique dans la province du Sud Kivu. C'est après ses vacances parlementaires passées dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder tout le temps à Radio Okapi pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Billy Van Loutouma vous présente cette édition du journal sur Radio Okapi. Toutes les mesures nécessaires sont déjà prises par les autorités sanitaires pour combattre dans le plus bref délai la résurgence de la maladie à virus Ebola qui a été déclarée par le ministère de la Santé le dimanche 21 août dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. Déclaration du directeur général de la direction de la lutte contre la maladie au sein du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Se confiant ce mercredi à Radio Okapi, Dr Dieudonné Mwamba appelle à l'implication de tous pour vaincre cette maladie. Grâce à Mzati.
Le ministère de la Santé précise que depuis la déclaration de cette 15e épidémie d'Ebola, les équipes cadres de la santé ainsi que les équipes provinciales sont à pied d'œuvre pour mener les actions de santé publique autour du cas confirmé. C'est notamment la désinfection de l'hôpital général de référence de Beni, le listage des contacts ainsi que la planification pour la vaccination. Docteur Dieudonné Mwamba.
Je peux vous confirmer que un lot de vaccins a été envoyé et qui est déjà arrivé au niveau de la province et qui sera déployé pour organiser dans les meilleurs délais la vaccination. Le travail est en cours par les équipes qui sont sur le terrain. C'est justement, on va commencer cette vaccination prioritairement avec les personnels de santé, qu'on appelle les personnels de première ligne, qui sont vraiment en contact avec le cas. Mais on va élargir aussi à contact et au contact des contacts.
Il appelle cependant la communauté à prendre cette menace sanitaire très au sérieux et à capitaliser l'expérience du passé afin d'éradiquer cette épidémie dans un bref délai.
On ne peut pas exposer les populations à un virus aussi dangereux. Donc, c'est loin d'être un montage. Nous communiquons sur ce qui est vraiment une réalité. C'est un virus qui a été détecté confirmé au niveau de laboratoire. Donc, nous invitons encore ceux qui résistent ou qui ne croient pas à vraiment faire confiance au système de santé, aux autorités sanitaires et politico-administratives.
Notons que le cas confirmé est une femme de 46 ans décédée le 15 du mois en cours à l'hôpital général de référence de Beni. À ce jour, plus de 150 cas contacts sont déjà enregistrés.
À Butembo, à la prison centrale, aujourd'hui, le nombre de détenus est de 319. Il s'agit des évadés récupérés progressivement après l'attaque ADF contre cette prison qui a occasionné la fuite de 874 détenus il y a de cela deux semaines. D'après Brunel Nkassa, directrice de cette maison carcérale, ces évadés sont appréhendés à Butembo et environ par les services de sécurité avec la collaboration de la population. Occasion pour elle d'encourager ainsi tous ceux qui fournissent leurs efforts à continuer dans cet élan. Brunel Nkassa ajoute toutefois que quelques-uns de ces évadés s'étaient rendus de même quelques jours après l'attaque. Autre nouvelle d'actualité, c'est aussi dans le territoire de Momba, dans la province du Tanganyika, où l'on enregistre depuis janvier de cette année plus de 100 cas de lèpre. D'après le superviseur de la lèpre et tuberculose dans la zone de santé de Momba, la prise en charge des malades est assurée par le gouvernement. Cependant, il constate que certains malades se présentent avec des infirmités et la prise en charge est compliquée. Philippe Ndaïlé sollicite l'aide du gouvernement. Il est joint par Paulin Munanga.
Jusqu'à ce jour, nous avons déjà enregistré 112 cas de lèpre. En 2021, pour toute l'année, nous avions enregistré 177 nouveaux cas. Tandis qu'en 2020, nous avions terminé avec 258 nouveaux cas. Le problème des médicaments ne se pose pas. Le problème qui peut se poser, c'est pour juguler un peu les infirmités. Il y a parmi ces cas que nous sommes en train d'enregistrer, il y en a qui viennent avec un retard puisqu'ils se présentent déjà au diagnostic avec des infirmités visibles. Il y a des médicaments qui peuvent intervenir, tels que la prednisolone, la dexaméthasone. Lorsque le malade se présente déjà avec un problème lié à la maladie, on peut intervenir avec ces médicaments-là. Mais il se fait que pour le moment, les médicaments-là, on ne les trouve pas. Nous demandons au gouvernement de nous approvisionner les médicaments capables de prévenir les infirmités liées à la lèpre.
L'hôpital général de référence de Lolloa, dans le territoire de Mambasa, en Ituri, a suspendu ses activités. C'est le médecin chef des zones de santé de cette entité sanitaire qui l'a annoncé aux médias mardi. Cela fait suite à l'activisme récurrent des rebelles des ADF. De nombreux habitants, y compris le personnel soignant de cet hôpital et les malades, s'y sont enfuis. La société civile locale lance un cri d'alarme aux autorités militaires pour rétablir la sécurité dans cette zone. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Cela fait maintenant plus de deux semaines que les rebelles des ADF ont investi plusieurs localités des environs du centre commercial de Lolloa dans la chefferie de Babila Bakwanza. C'est par exemple les villages Tolitoli, Bahaha, Bandikilo, Babumbel, Lomalisa, Balibwami qui se sont vidés de leurs habitants. Selon plusieurs sources locales, au moins six attaques de ces rebelles ont déjà été repoussées par l'armée autour de l'hôpital de Lolloa dont les rebelles cherchent à tout prix à prendre le contrôle et pouvoir ainsi le piller pour se ravitailler en médicaments. Des sources médicales dans la zone rapportent que tous les malades ainsi que les corps soignants ont fui pour leur sécurité, ce qui a poussé les autorités sanitaires à instaurer un service minimum. La société civile locale invite l'armée à renforcer ses opérations contre ces terroristes afin de permettre le retour de la paix dans cette zone. Son coordonnateur, Alaya Yuma Constant.
Parce qu'on ne peut pas demander une autre chose quand il n'y a pas la paix. Même si on dit qu'il faut plus ouvrir l'hôpital, on va ouvrir comment quand il n'y a pas la paix. C'est pour cela que nous demandons à nos autorités de nous venir en aide pour voir comment chercher que la paix puisse revenir dans notre activité.
Signalons que la zone de santé de Lolloa compte plus de 118 000 habitants, dont la majorité bénéficie des soins de cet hôpital. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans la province du Maïndombé où plus de 5000 déplacés qui ont fui les affrontements entre les communautés Teke et Yakao dans le territoire de Kwamout sont accueillis dans le territoire voisin de Bolobo, plus précisément dans le village Lediba. Parmi ces personnes, 10 ont trouvé la mort dans leur refuge. L'administrateur du territoire de Bolobo qui le dit indique que ces déplacés vivent dans des conditions précaires, manquant même à manger. Nestor Mbangui plaide auprès du gouvernement tant national que provincial pour l'assistance de ces Congolais. Il l'a dit à Irène Boma.
Plus de 5000 déplacés depuis plus de 10 mois. Parce que cette population du territoire de Kwamoutou s'est réfugiée dans le territoire de Bolobo. Alors nous sommes obligés donc de savoir, de donner un rapport. Hein, parce que c'est le territoire de Bolobo qui accueille donc cette population qui est déplacée. Vous savez que quand les gens se sont déplacés d'une attaque, bon, ils vivent toujours dans des conditions difficiles. Alors ils sont maintenant à l'Ediba, il est nécessaire que le gouvernement puisse quand même les assister. D'abord dans la nourriture et puis les habits aussi. Parce qu'ils ont laissé le tout. Bon, il faut des mousquetaires, il faut des mousses, l'argent aussi. Lieu d'habitation, et les particuliers, c'est-à-dire en famille, dans des hôtels, écoles, églises et l'hôpital. L'hôpital a cédé un bâtiment pour eux. C'est l'hôpital secondaire de Diba.
Dans le Nord Kivu, les combats ont repris cet après-midi entre les FRDC et les rebelles du M23 autour du village de Rangira. C'est dans le groupement Djomba en territoire des Rutshuru. Selon des sources civiles et administratives locales, depuis 12 heures locales, des tirs à l'arme lourde et légère sont entendus dans la zone. Ces sources affirment que les rebelles du M23 seraient en train de lancer des projectiles sur la position des FRDC dans la zone depuis la colline Mukarange surplombant Rangira. Des tirs auxquels répondent les FRDC. Ces sources parlent aussi d'une attaque de la part des présumés combattants du M23 contre des civils dans leur champ hier mardi dans le village Rugamba, groupement de Djomba. 4 paysans auraient été blessés. Pendant ce temps, au moins 14 vaches auraient été volées par les mêmes éléments présumés vers 16 heures locales hier mardi dans la localité Mungo, un groupement voisin de Busanza. À Ituri, plus de 600 véhicules transportant des marchandises et des milliers de passagers sont bloqués à Komanda Centre pour les uns et à Mambasa Centre pour les autres. C'est la conséquence de la suspension de trafic depuis lundi par les autorités à cause de la persistance de l'insécurité causée par les rebelles des ADF sur ce tronçon. La société civile locale et la Fédération des entreprises du Congo déplorent déjà la rareté et la hausse des prix de certains produits sur les marchés. Ces structures demandent au gouvernement de lever cette mesure qui accentue la souffrance de la population. Pour en savoir plus sur cette situation, Isaac Remoyope depuis Bounia nous en parle.
De nombreux camions et voitures en provenance de Bounia et du Nord qui vous sont stationnés depuis lundi à Komanda Centre, même décor à Mambasa Centre où sont bloqués des centaines de véhicules qui viennent de la province de Tchopo. Selon la société civile de ces deux entités, des milliers de passagers vivent dans des conditions difficiles. Certains produits de première nécessité, notamment de l'huile et du riz, deviennent déjà rares. À Mambasa Centre et d'autres agglomérations le long de la RN4, les acteurs de la société civile et de la FEC demandent aux autorités de mener des opérations de ratissage pour traquer les rebelles des ADF qui ont intensifié les attaques sur les tronçons communs à Mambasa. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que les opérations militaires sont en cours et elles ont d'ailleurs permis de capturer 3 ADF le week-end dernier dans la zone. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que l'objectif est de garantir la libre circulation sur cette route.
Nous sommes dans les opérations de ratissage dans cette zone. Hier, on a présenté 3 ADF qui étaient dans les opérations de fouilles et de ratissage dans cette partie de la République. Et du reste, nous sommes en train de travailler pour rendre la liberté des mouvements à nos populations. Aujourd'hui, nous avons convoyé des milliers de véhicules pour essayer de pallier à cette situation.
Signalons que cette situation accentue la misère de la population dans ces deux entités qui hébergent des milliers de déplacés qui ont fui les exactions des ADF. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Voie des communications et voirie à présent, dans la province de la Tchopo, les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kisangani-Opala sont à l'arrêt depuis dimanche dernier. Pour cause, le retrait des engins par le directeur général de l'entreprise Maison, le juste pour non-respect des clauses contractuelles par l'Office des routes. Tous les conducteurs des machines et les mécaniciens ont quitté le chantier au point kilométrique 20 et ont regagné Kisangani. Benjamin Mibengu, directeur général de la maison, justifie son geste. Il est au micro de Jacques Moukonkole.
Les travaux sont arrêtés pour plusieurs raisons. J'ai écrit la lettre à mon partenaire. Mon partenaire a respecté à me répondre sans tenir compte de mes désiderata. Je ne peux qu'arrêter d'abord pour l'exciter maintenant à être clair dans sa réponse. Je suis une société privée, comme je vous ai dit. Et quand on crée une société, c'est pour générer des bénéfices. Et dès que je constate que je ne suis plus dans les bénéfices, je vais maintenant dans une perte. Or, la perte n'est pas une règle dans une société. Je ne suis pas une Caritas ou une ONG avec œuvre philanthropique. Non, non. Je cherche un licre. Et si la réponse continue à traîner, nous serons obligés de commencer à évacuer nos matériels ou nos engins vers la ville de Kisangani.
Contactez le directeur provincial de l'Office des routes Tchopo déclare avoir dépêché ses collaborateurs sur les chantiers pour constater l'effectivité de l'arrêt des travaux. Sylvain Atakilonga ajoute qu'il continue à attendre la réponse de Kinshasa pour le renouvellement du contrat avec la maison Le Juste. À Zongo, dans le sud d'Ubangi, la population exerce une intense activité commerciale transfrontalière avec la capitale centrafricaine à l'autre rive de la rivière Ubangi. Cependant, plusieurs cas de noyade surviennent souvent avec les embarcations de fortune dans des pirogues à rames. Il y a 3 semaines, un véhicule à bord d'un radeau de fortune a failli chavirer à l'accostage avec toutes les marchandises. C'est pourquoi la population des Zongo réclame l'arrivée du bac déjà construit sur ordre du chef de l'État pour la ville. Explication du maire de la ville qui estime que la période des crues en cours reste propice à remonter le bac jusqu'à Zongo. Michel Siazo a été joint par Paul Richard Malengela.
Puisse faire tout pour que les bacs puissent rejoindre la rive des Zongo et commencer à desservir les deux rives, desservir la population et s'éclairer bien. Vu qu'aujourd'hui, nous continuons à utiliser un radeau. C'est un moment où il y a un bac déjà construit pour la rive des Zongo. Ce sont des radeaux qui ramènent des véhicules et tout ça. Il y a déjà des véhicules qui sont engloutis sous l'eau. Il n'y a pas longtemps, il y a un véhicule pour pouvoir descendre de cette embarcation de fortune à Paris, même chavirer sous l'eau, juste à la constance. Il y a de cela, je crois, 3 semaines. Donc, en définitive, la population a besoin de ce bac-là pour éviter plusieurs risques possibles. Donc, avec ce bac-là, ça va non seulement desservir chez nous, mais également desservir de l'autre côté. La population est derrière le chef de l'État, la population est consciente de tout ce chef d'État fait pour elle. Et nous attendons, on ne sait pas se bloquer à quel niveau. Lorsque nous commencerons à baisser, ça sera plus possible, ça sera peut-être l'année prochaine, selon les bacs arrivent à Zongo.
Notons que la mise en service de ce bac va faciliter l'intense commerce transfrontalier à la ville de Zongo, notamment l'exportation des produits tels que café, cacao, arachide, huile de palme vers la République centrafricaine jusqu'au Tchad et au Cameroun.
Actualité internationale.
Les Angolais votent pour une élection dans laquelle le président João Lourenço cherche à obtenir un second mandat et le parti d'opposition de longue date, l'UNITA, tente de déloger le parti au pouvoir, le MPLA, qui détient le pouvoir depuis 47 ans. Certains électeurs ont fait la queue à l'aube mercredi, 2 heures avant l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures locales. Monsieur Lourenço, chef du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, s'est rendu à 8 heures locales au bureau de vote de l'université Lusiada d'Angola dans le quartier Ingombota de Luanda. Une demi-heure plus tard, son grand rival, le leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola UNITA, Adalberto Costa Junior, a fait de même en votant à l'école Estrela, également dans la capitale angolaise. Lors d'un premier contact avec la presse, le porte-parole de la Commission nationale électorale a déclaré tôt le matin que le processus se développe de manière ordonnée et pacifique. Élu en mai dernier, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud veut mettre fin à l'ordre terroriste. Mardi, il a tenu une réunion du comité de sécurité nationale dans la capitale afin de préparer la riposte contre ces islamistes qui sèment depuis plus d'une décennie l'instabilité dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Hassan Sheikh a promis une guerre totale aux Shebab. Ces Shebab avaient été chassés des principales villes de la Somalie, mais restent implantés dans des vastes zones rurales et demeurent une menace. Ils multiplient les attaques dans la capitale. Le week-end dernier, au moins 21 personnes et près de 117 blessés ont été enregistrés dans un hôtel de Mogadiscio.
L'invité.
Notre invité de ce jour, c'est le député national et gouverneur honoraire du Sud-Kivu, Claude Nyamugabo. Des retours des vacances parlementaires, il félicite et encourage en même temps la jeunesse du Sud-Kivu à laisser le gouvernement traiter de la question du retrait de la MONUSCO. Il parle également de la nécessité d'achèvement des anciens projets d'intérêt national tels que l'asphaltage de la route Bukavu-Kamanyola et du stade de Bukavu. Suivez plutôt cet entretien du député national Claude Nyamugabo avec votre serviteur.
Monsieur le député national Claude Nyamugabo, bonjour.
Bonjour.
Question d'actualité d'abord, vous étiez dans votre chef électoral alors qu'il y a eu une crise de confiance entre la MONUSCO et une frange de la population de la partie Est. En tant que député national élu par cette communauté, comment avez-vous géré cette crise?
J'ai vu ce qui s'est passé au nord Kivu et j'ai vu même les risques qu'avait couru la ville d'Uvira au sud Kivu. Et très rapidement, en ma qualité de notable de la province, il faut souligner que je suis gouverneur honoraire de cette province et que je suis le meilleur élu du territoire de Kabare. En cette triple qualité, j'ai rapidement pris langue avec les leaders de la jeunesse du sud Kivu ainsi que certains notables pour qu'on appelle notre jeunesse au calme. C'est vrai que nous pouvons manifester, c'est le droit de notre jeunesse. Nous avions évité à notre province les casses qu'il y a eu au nord Kivu. Manifester, oui, mais savoir que la MONUSCO a un mandat du Conseil de sécurité, on ne se réveille pas et dire la MONUSCO qu'elle parte. Encore que le gouvernement de la République, chaque année, réfléchit sur cette question avec les Nations Unies pour que progressivement la MONUSCO quitte les territoires de la République démocratique du Congo. Il faut qu'en décembre, lorsque les discussions vont commencer à ce sujet, demander peut-être l'accélération du départ de la MONUSCO. Mais sur le plan interne, je demande aussi au commandant suprême de tout mettre en œuvre pour nous doter d'une armée professionnelle, formée et équipée pour que n'ayons plus besoin de faire recours chaque fois à l'extérieur pour la protection de nos civils ou pour protéger nos frontières.
Parlons à présent de vos vacances parlementaires. Vous êtes allé au sud Kivu et en y allant, c'est quoi des solutions que vous avez pu apporter à ces populations et c'était quoi leur problème spécifiquement?
Là, nous parlons du territoire de Kabare. Il y a une grande partie du territoire qui n'avait plus accès à l'eau. C'est 14 sous-villages qui, depuis 10 ans, n'avaient pas accès à l'eau, alors que ces sous-villages sont autour de la ville de Bukavu. Ce problème m'avait été posé par mes électeurs et depuis mes vacances parlementaires, j'ai ouvert les vannes et les 14 sous-villages autour de Bukavu ont accès à l'eau. Il y a également les associations villageoises d'épargne et de crédit que je soutiens depuis plus de 5 ans parce que ces associations, c'est des épargnes qui permettent à nos mamans et même à des jeunes gens de commencer un petit commerce ou de le renforcer et ça marche très bien.
Actuellement, maintenant, maintenant, c'est quoi le plaidoyer que vous devez mener auprès de l'exécutif pour trouver des solutions aux problèmes posés?
Pendant mes vacances parlementaires, j'ai reçu deux principales doléances, à savoir la poursuite des travaux d'asphaltage de la route qui mène de Bukavu à Kamanyola, soit 55 km. Aujourd'hui, seuls 10 km sont faits depuis plus de 5 ans. Il faut vite rattraper ce retard. J'en appelle au gouvernement de la République parce que cette route, moi je l'appelle la route de la souveraineté, parce que la route qui mène de Bukavu à Kamanyola, en passant par les escarpements de Ngomo, elle est une route congolaise, mais elle n'est pas à même de faciliter les échanges entre la population de la ville d'Ouvira et celle de la ville de Bukavu, et donc les contacts avec le port de Kalundu sont handicapés, et les Congolais sont obligés de passer par le Rwanda à partir de Kamanyola pour rejoindre la ville de Bukavu, avec tout ce que ça comporte comme humiliation, avec tout ce que ça comporte comme frais à payer. C'est des travaux qui sont faits dans le cadre des échanges entre les sociétés chinoises et la République démocratique du Congo, et donc ces travaux ne demandent pas que les frais soient déboursés par le ministère des Finances. Les stades de Bukavu, commencés sous mon mandat en 2018, n'a pas encore été fini jusqu'à aujourd'hui. Et ce stade est construit également par les sociétés chinoises dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises. Et donc, il faut activer de ce côté-là pour que les sociétés chinoises reprennent très rapidement les travaux.
Sur le plan politique, nous sommes à quelques mois des échéances électorales en RDC. Et bien avant vos vacances parlementaires de Kinshasa, vous avez créé un parti politique, le Front pour un Congo Nouveau, FPCN. Vous avez échangé avec votre base. C'est quoi le message par rapport à ces échéances électorales qui s'annoncent?
Comme nous l'avons dit lors de la sortie officielle du parti, le Front pour un Congo Nouveau ne sera pas un parti de mallette. Nous avons fait la sortie à Kinshasa et une semaine après, nous nous sommes rendus au Sud Kivu pour implanter ce parti. Nous nous sommes rendus également afin de lui donner une envergure nationale. Nous en avons profité non seulement pour implanter le parti, mais aussi pour mobiliser notre base à se préparer aux élections parce que nous voulons avoir des députés provinciaux, nous voulons avoir des sénateurs, beaucoup de députés nationaux à travers les territoires nationaux. Et enfin, nous voulons élire un président de la République. Et ce n'est plus à cacher, le Front pour un Congo Nouveau est derrière la candidature prochaine du président Félix Tshisekedi comme président de la République. Et donc, nous sommes rangés en ordre de bataille pour faire élire notre candidat, le président Tshisekedi, et amener une grande moisson pour nous permettre d'être un parti assis à travers le territoire national.
Claude Nyamugabo, député national élu Kabaré, nous vous disons merci.
Merci, Billy.
Fidèles auditeurs, voilà qui met un terme à cette édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci.